France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. C'est la bonne nouvelle de la nuit et Donald Trump n'a pas manqué de s'en féliciter. Le Hamas s'est engagé à libérer les 20 otages israéliens encore vivants et à restituer les morts. Jérusalem se prépare à les accueillir et devrait affranchir en échange quelques 2000 prisonniers palestiniens. La première étape du plan de paix pour Gaza, annoncé lundi dernier par le président américain et le premier ministre israélien, est bel et bien enclenché. S'exprimant à sa manière dans un communiqué sur son réseau social, Donald Trump a aussitôt salué un accord qualifié de « peut-être sans précédent ». Il a remercié les médiateurs qataris, égyptiens et turcs et enjoint Israël d'arrêter son offensive. Mais la ville de Gaza a été bombardée la nuit dernière et ce matin encore, et Jérusalem avertit la population de ne pas y revenir. Plusieurs points essentiels restent évidemment à régler. L'organisation terroriste pose des conditions, notamment au sujet de l'administration de Gaza, et veut engager des négociations sans mentionner son éventuel désarmement. De son côté, Israël annonce renforcer encore son dispositif militaire sur place. En pleine fête religieuse, à la veille du sinistre anniversaire du pogrom terroriste du 7 octobre 2023, 2 ans de guerre et 66 000 morts palestiniens plus tard, quelle est ce matin la marge de manœuvre de Benjamin Netanyahou ? Va-t-il se contenter d'applaudir le retour des otages tout en continuant à finir le travail à Gaza, pour reprendre sa propre expression? Donald Trump et son opinion publique vont-ils lui laisser le choix? L'imprécision ou l'impasse sur quelques questions clés du plan américain a servi jusqu'ici ce tacticien hors pair. Maintenant que le Hamas exige des négociations supplémentaires, Israël et son gouvernement s'en trouvent-ils renforcés ou affaiblis? Une fois de plus, au-delà même de la lancinante question palestinienne, les lignes de force ne cessent d'évoluer au Moyen-Orient. Souvenons-nous, en juin, il y a 4 mois à peine, à l'issue d'une guerre de 12 jours contre l'Iran, Jérusalem paraissait en mesure d'imposer à la région entière une forme d'hégémonie. Depuis le bombardement israélien du 9 septembre sur Doha, on voit au contraire une garantie de sécurité sans précédent offerte par les États-Unis au Qatar, une solidarité accrue entre les monarchies du Golfe et la Turquie, leur intérêt commun pour reconstruire la Syrie, un renforcement des accords de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, autrement dit une reconfiguration des rapports de force, une géographie mouvante des zones d'influence, alors que l'Iran exsangue est soumis à nouveau aux sanctions européennes pour non-respect des accords nucléaires. Quels sont les gagnants, quels sont les perdants en ce moment aussi fluide? La France espère avoir marqué des points en reconnaissant symboliquement l'État de Palestine. Washington garde-t-il la main alors que Moscou et Pékin préservent leurs avantages? Et surtout, la guerre à Gaza est-elle vraiment terminée? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ce matin. Grâce à vous, Dorothée Schmitt, vous êtes la responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Azadeh Kian, professeur émérite de sociologie à l'Université Paris-Cité, merci d'être avec nous. David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès et co-fondateur de l'Atlantic Middle East Forum. Et bien sûr, Christophe Jaffrelot, directeur de recherche aux séries Sciences Po CNRS. David Kalfa, la fuite en avant de Benjamin Netanyahou, qu'on a d'ailleurs analysé ici même il n'y a pas longtemps, est-elle selon vous stoppée ce matin ou pas du tout?
Elle est stoppée momentanément. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'au fond, les dynamiques dont vous parliez à l'instant, elles viennent, sous nos yeux ébahis, de se renverser à nouveau. C'est-à-dire que vous avez décrit un proche Moyen-Orient sous hégémonie israélienne dans le sillage des massacres du 7 octobre et la riposte brutale d'Israël qui a disloqué en fait l'axe dit de la résistance, c'est-à-dire l'axe pro-iranien au Proche-Moyen-Orient. Et là, ce à quoi on assiste, c'est un vertigineux renversement des rapports de force, puisque, je le rappelle, qu'il y a à peine quelques jours, c'était le Hamas qui était acculé. Rappelez-vous cet ultimatum de Donald Trump qui demandait instamment au Hamas de répondre positivement à son fameux plan, et le Hamas n'avait pas d'autre choix en réalité que de répondre par un oui-mais, parce que s'il avait répondu oui de façon, disons, définitive, il aurait consacré sa défaite militaire en la prolongeant sur le plan politique par une humiliation, puisque son seul levier, sa carte maîtresse sont les otages. Donc il aurait dû libérer immédiatement les otages, et par ailleurs surtout il aurait dû accepter son désarmement, ce qu'il n'a pas fait en réalité. Et s'il avait dit non, il se serait aliéné ses derniers soutiens dans la région, donc au premier chef les Turcs et les Qataris. Et puis par ailleurs il aurait donné un blanc-seing à Netanyahou pour, comme vous l'avez souligné dans son expression très fleurie, je dis ça évidemment avec un brin d'ironie, pour terminer le travail à Gaza. Or là, c'est Netanyahou qui désormais est acculé. C'est Netanyahou qui est fragilisé plus que jamais politiquement. Je note au passage que tout ça intervient pendant Shabbat, ce qui fait que son extrême droite nationaliste religieuse, évidemment, ne peut pas réagir pour l'instant. Elle le fera qu'après, qu'à l'issue du Shabbat, donc c'est-à-dire ce soir précisément. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va précipiter la chute de la coalition ? Puisque Netanyahou a accepté, en tout cas, de mettre en œuvre la première partie de ce plan.
Néanmoins, Netanyahou continue de bombarder la ville de Gaza et enjoint la population à ne pas y revenir. Donc, il n'obéit pas à Donald Trump, qui, dans son communiqué sur Truth Social, qui est son réseau social personnel, disait « Bon, maintenant, Israël, arrête de bombarder. »
Alors, c'est plus compliqué que ça, et c'est toute l'ambiguïté de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le plan Trump, en réalité, il est lacunaire. Il y a un certain nombre de failles béantes, même, parce qu'il n'est pas du tout précis sur l'exécution, sur la mise en œuvre.
Mais c'est son habileté, d'une certaine manière.
Alors justement, quand vous parlez des bombardements, là, la posture de l'armée israélienne aujourd'hui, elle est dite défensive. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des frappes si l'état-major estime qu'il y a un danger imminent pour les soldats qui sont déployés sur le terrain. Et encore une fois, ça montre que justement, il y a une imprécision, il y a un flou artistique qui règne. Et les deux parties, en réalité, à la fois Israël et le Hamas, pourront instrumentaliser ce flou pour faire avancer leurs intérêts.
Dorothée Schmidt, on sait que le Qatar, l'Égypte et la Turquie sont les médiateurs dans cette affaire. Ils ont d'ailleurs été félicités par Donald Trump, remerciés par Donald Trump hier soir. Mais on a vu aussi que eux et les cinq autres pays arabes et musulmans qui ont participé à la mise au point de ce plan de paix sont nettement moins enthousiastes. Et l'Égypte, ce matin, annonce une conférence palestinienne, réunissant donc en principe les différentes factions, pas seulement le Hamas, mais l'autorité palestinienne, qui est exclue du dispositif selon Jérusalem. Donc, où en est-on, vu du point de vue arabe et turc ?
Bon, alors d'abord, je pense qu'on a quand même on a avancé dans cette chronologie mortifère, dans cette catastrophe à laquelle on assiste tous depuis le 7 octobre 2023, on avance quand même vers un cessez-le-feu, on avance vers une solution politique. En tout cas, tous les efforts internationaux convergent vers ces objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est en partie le résultat de cette espèce de rapport de force avec la communauté internationale qui a été établi par la séquence à l'ONU et par les efforts français. Donc peut-être qu'on pourrait y revenir, mais je pense qu'il y a quand même une utilité très forte de ce que certains voient comme un mouvement complètement symbolique des Français pour faire reconnaître l'État palestinien. En fait, l'idée, c'est de remettre le sujet palestinien dans son entièreté, dans le débat, sur la table, et de ne pas uniquement se focaliser sur Gaza, qui est devenu l'obsession de Donald Trump, parce qu'il a bien compris que c'est là-dessus qu'il y avait une très forte sensibilité, et qu'il a bien compris que c'était là-dessus que le moins d'ambiguïté serait supportable après 65 000 morts. Donc on a aujourd'hui un moment où les pays arabes cherchent, eux, à reprendre pied dans la négociation. Les médiateurs cherchent à devenir pas seulement des médiateurs, mais à avoir aussi apporté eux-mêmes leurs solutions politiques, à apporter leurs propres idées. Et l'Égypte, c'est le parrain des Palestiniens politiquement. C'est un pays qui a travaillé sans relâche depuis que la division entre Gaza et la Cisjordanie est actée dans les faits, à la réconciliation interpalestinienne. Et donc là, voilà la surprise, toutes les lacunes de ce plan Trump dont parlait David Kalfa tout à l'heure, ça permet aussi à tous les autres acteurs qui sont partie prenante de cette négociation, et les pays arabes sont un acteur très important de cette négociation, d'apporter leur contribution à cette discussion. Évidemment, ça devient un peu cacophonique, mais au moins, on va avoir sur la table tous les points essentiels pour arriver à une solution politique après que les armes se soient tues.
David Kalfa, le Forum des familles d'otages demande au gouvernement israélien d'arrêter la guerre, d'arrêter les bombardements. Même chose de la part de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump, pour Benjamin Netanyahou, est toujours un allié aussi sûr maintenant que Trump, à juste titre, voit la possibilité d'une paix à Gaza?
Moi, je note que, en réalité, en tout cas dans la dernière séquence à laquelle on assiste, c'est le Qatar qui sort très largement vainqueur de ces négociations diplomatique dans la coulisse. On a assisté à l'humiliation de Netanyahou, qui a dû s'excuser en fait des frappes israéliennes contre donc des représentants du Hamas, des dirigeants du Hamas, de la branche extérieure du Hamas à Doha. On a vu aussi la formalisation d'un accord de défense qui est totalement inédit entre le Qatar et les États-Unis. Et encore une fois, moi je pense que le piège, en tout cas à ce stade, est en train de se refermer sur Netanyahou, qui est fragilisé politiquement en Israël. On voit bien d'ailleurs, de manière très, intelligente, en l'occurrence l'opposition aussi, essaye de refermer ce piège sur lui, parce que elle soutient le plan Trump et appelle Netanyahou à le mettre en œuvre immédiatement. Donc là, il est dans une situation très très compliquée. Mais moi, ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que soit qu'on assiste, c'est plus un jeu de poker qu'un jeu d'échecs. Le poker, vous savez, il y a un certain nombre d'incertitudes. C'est le hasard qui règne. Le jeu d'échecs, lui, est fondé sur une forme de déterminisme, parce que vous connaissez tous les paramètres, vous voyez toutes les pièces. En réalité, il y a un niveau d'incertitude qui règne au proche Moyen-Orient qui est tel qu'il n'est pas du tout possible aujourd'hui d'affirmer, malheureusement, qu'on va vers une solution politique. On se rapproche d'un cessez-le-feu, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. En revanche, une solution politique, là, malheureusement, personnellement, j'ai quelques doutes. Lorsque le président Trump dit du Hamas qu'il est prêt à la paix, ça m'a fait quand même clairement sourire, parce que l'essence même du Hamas, c'est la Mukawama, c'est donc la résistance, c'est-à-dire la lutte armée à tout craint contre Israël. À aucun moment le Hamas ne s'est prononcé en réalité sur la question de son désarmement. Il a parlé d'un mouvement palestinien unifié dans lequel il prendrait sa part. C'est pas du tout ce que dit le plan Trump. Donc on voit bien que en réalité ce plan, quelque part, il permet, parce qu'il y a une ambiguïté, disons constructive, qui le structure. Il permet à chacune des parties d'y voir ce qu'elle a envie d'y voir. Donc les Israéliens, évidemment, le désarmement du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza, qui ne sont pas du tout garantis. Le Hamas, évidemment, la fin de la guerre, la cessation des hostilités, parce que l'objectif du Hamas depuis le départ, depuis le 7 octobre, en réalité, c'est d'essayer de revenir au 6 octobre, à la situation antérieure. Le Hamas n'est pas stupide, il sait que c'est impossible, mais en revanche, ce qu'il veut, c'est un modèle à la Hezbollah, c'est-à-dire un comité, en tout cas un gouvernement palestinien qui serait, après le cessez-le-feu, qui viendrait lui succéder, mais qui serait une espèce de gouvernement fantoche, très faible, que le Hamas pourrait manipuler en conservant ses armes, qui sont son principal levier.
Dorothée Schmidt, est-ce que pour vous aussi, le basculement des rapports de force, c'est véritablement ce bombardement israélien sur la capitale du Qatar, c'était le 9 septembre dernier, pour viser un certain nombre de responsables du Hamas, qui d'ailleurs n'ont pas été tués. Est-ce que ceux-là d'ailleurs ont été accueillis ou non en Turquie par le président Erdogan ?
Alors ça, personnellement, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le garantir. Je peux en tout cas revenir effectivement sur ce moment de redéfinition pour moi historique de la frappe israélienne du 9 septembre. On a quand même 10 missiles qui ont été tirés depuis des avions de combat israéliens sur la capitale du Qatar, qui est le pays où se trouve la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient, qui est un pays allié. Et c'est un moment de trauma absolu parce que ça fait entrer les monarchies arabes du Golfe dans la guerre, en fait. Ça les fait entrer dans la réalité militaire du conflit israélo-palestinien alors qu'elles y avaient échappé physiquement jusqu'à présent. Donc ça a été un moment de très grande peur. Donc quand David Khalfa dit que le Qatar sera aujourd'hui vainqueur de cette séquence, je crois que surtout les Qataris ont eu très peur, mais qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont ce besoin qu'ont les États-Unis de s'entendre avec les pays du Golfe, pour Donald Trump de façon personnelle aussi, parce qu'il a des très gros enjeux économiques, notamment avec l'Arabie saoudite, on le sait. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que aujourd'hui, ces monarchies du Golfe, elles ont réussi à surmonter des divisions qui étaient quand même très profondes, puisque vous vous souvenez qu'on a eu ce blocus décrété par l'Arabie saoudite et les Émirats sur le Qatar qui a duré 4 ans, et que les pays étaient à couteau tiré. Or, aujourd'hui, il y a une unanimité. Alors, elle est évidemment, ils ne sont pas d'accord sur absolument toutes les questions politiques. Et comme vous l'avez dit, c'est toujours Qatar, Égypte, Turquie qui ont exercé une espèce de leadership pour exprimer quand même la position de l'ensemble des pays arabes à New York dans les tractations avec Donald Trump. Donc on a quand même un début d'unité qui se fait de manière assez inédite en fait à l'échelle de la région. Et ce qui est important historiquement à comprendre sur cette unité, c'est qu'aujourd'hui on a une mise en responsabilité des pays du Golfe qui sont des pays qui n'ont pas participé au conflit israélo-palestinien militairement, encore une fois, alors que les pays qui ont signé la paix avec Israël, l'Égypte et la Jordanie, ont été extrêmement maltraité dans cette crise, extrêmement maltraité depuis le 7 octobre 2023, voire totalement négligé, et que aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, ne parlent plus du tout des accords de Camp David. C'est-à-dire que la paix avec l'Égypte, aujourd'hui, ne leur importe pas. La seule chose qui compte pour Donald Trump, c'est de faire passer à l'histoire les accords d'Abraham. Donc on a eu un changement d'échelle, en fait, un changement d'acteur et un changement d'échelle sur ce conflit. Alors toute la question est de savoir à quel moment cet ensemble en formation finalement de nouvelles puissances arabes va être capable d'exercer une vraie responsabilité politique qui passera aussi peut-être par l'envoi de troupes dans cette fameuse force de stabilisation qui se dessine à Gaza pour l'avenir.
Oui, cette force de stabilisation qui, elle, est mentionnée dans ce plan en 20 points et à laquelle, évidemment, aucune précision à ce stade n'est apportée. Azadeh Kian, si on fait machine arrière, et c'est pas si lointain, c'était en juin dernier, Israël, avec l'appui massif des États-Unis quelques jours plus tard, bombarde l'Iran. Donald Trump persiste à dire que tous les stocks d'uranium enrichi iraniens ont été détruits. Ce n'est pas ce que disent les Iraniens eux-mêmes et encore moins l'Agence de sécurité nucléaire de Vienne. Mais c'est véritablement l'Iran qui, dans cette configuration très mouvante, est à terre.
Tout à fait. Le perdant, c'est l'Iran, sans aucun doute, puisque ces groupes de proxy sont maintenant très, très affaiblis. Le Hezbollah libanais en particulier, le régime syrien de Assad n'est plus là. Et là, maintenant, le Hamas est en train quand même d'accepter, non pas le plan, mais en tout cas une partie du plan de président Trump. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui même, le chef, M. Rahani, qui est le chef de l'armée Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la révolution qui était très active dans l'ensemble de la région, a annoncé que l'Iran n'était absolument pas informé de l'attaque de Hamas et alors il dit les ultras de Hamas contre Israël en octobre 2023. On l'a su après, le Hezbollah non plus n'était pas informé, etc. Donc ce qui veut dire qu'ils sont quand même même en train aussi de quelque part de se désolidariser avec les actes, disons entre guillemets, terroristes de Hamas, alors que jusqu'à très encore très peu de temps, ils n'arrêtaient pas quand même de soutenir le même Hamas, ce qui montre aussi un changement. Il y a beaucoup de changements aussi en Iran, mais on les voit pas. Par exemple, déjà ce genre de discours dont on n'entendait pas auparavant, mais en même temps l'affaiblissement de plus en plus important de régime islamique d'Iran, tant du fait de l'opposition interne de sa propre population, mais également la recrudescence, je dirais, de la répression. Aujourd'hui, même ce matin, même 7 prisonniers politiques ont été pendus en Iran, taxés d'espionnage en faveur d'Israël.
Oui, il y a un nombre incroyable de mises à mort depuis la défaite militaire, si
absolument
j'ose dire.
Absolument, défaite. Alors, eux, ils pensent pas que ça a été une défaite. Et ils sont en train de reconstruire les missiles bombardés par Israël, en même temps que, effectivement, les 450 kg d'uranium enrichi à 60%, visiblement, n'ont pas été détruits. On sait pas où ils sont, mais n'ont pas été détruits. Et aujourd'hui, en Iran, il y a une partie des observateurs et des gens au pouvoir qui pensent que l'Iran doit aller vers le seuil du nucléaire, c'est-à-dire enrichissement à 90%, en disant l'Iran est un grand pays, donc les Israéliens ne peuvent pas détecter l'ensemble de nos activités, etc. Et c'est à ce moment-là, avec cette puissance nucléaire militaire, que nous pourrons mieux négocier avec les Américains. Pour l'instant, en tout cas, ce que je sais, ce qu'on sait, c'est que selon Blinken, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, après les bombardements israélo-américains, en juillet, les Iraniens auraient discuté avec la Troïka européenne, auraient proposé d'enrichir l'uranium à 0,7% seulement. C'est-à-dire que l'enrichissement de l'uranium est leur ligne rouge, mais seulement à 0,7%. Qu'ils étaient aussi d'accord pour même discuter de programmes de missiles iraniens, mais que, visiblement, les Américains ont rejeté l'ensemble de ces propositions.
Les Européens, c'était prévu dans les accords de 2015.
Oui, absolument.
Les sanctions, par effet de cliquet automatique, sont retombées.
Non, mais je voudrais juste ajouter que ce que veulent les Américains, et surtout Trump, c'est des négociations directes avec les Iraniens. Or, les Iraniens ont refusé jusque-là des négociations directes. Ça s'est toujours passé par l'intermédiaire de la Troïka européenne, de Qatar, de Oman, etc. Les Américains disent négociations directes. Et 4 points de Trump qui vont dépouiller l'Iran complètement de toute sa puissance, hein, c'est-à-dire pas de missiles, pas d'enrichissement de l'uranium, il faut arrêter de soutenir les groupes de proxy dans la région, et enfin, les missiles ne doivent pas avoir une portée de plus de 500 kilomètres.
Mais donc ça veut dire que le régime iranien est en mesure encore, malgré une situation économique épouvantable, une inflation sans doute à 100%, le régime est capable de refuser...
De refuser, pourquoi? Parce que ils ont pour allié la Russie, pour l'instant, qui les a beaucoup soutenus à l'ONU récemment, et aussi comptent sur la Chine pour contourner les sanctions. Donc, effectivement, ils comptent sur la Chine et la Russie, et en particulier la Russie, avec laquelle ils viennent de signer un nouveau contrat politique, économique, militaire.
Christophe Jaffrelot, avec vous, on va aller encore plus Moyen-Orient, Asie, plus encore plus vers l'Est. Parce que le 17 septembre, et je crois que la chronologie a son importance, encore une fois, toujours par rapport à ce bombardement du 9 septembre, bombardement israélien sur la capitale du Qatar, on apprend un nouvel accord militaire entre l'Arabie Saoudite et la République islamique du Pakistan. On parle du Pakistan, on oublie que l'appellation officielle, c'est République islamique du Pakistan. Comment s'inscrit ce nouvel accord, selon vous, dans l'historique de la région?
Là, le Pakistan revient dans le jeu comme il y a été il y a des décennies. Puisque, rappelez-vous, lorsque la guerre en 1971 prive le Pakistan de ce qu'est devenu le Bangladesh, Bhutto n'a qu'une idée, obtenir la bombe atomique. Et pour l'obtenir, il fait une tournée à travers tout le Moyen-Orient. Il va jusque au Maroc, la Libye de Kadhafi, l'Arabie Saoudite du roi Faisal, qui va venir d'ailleurs en 1974 à la réunion de la conférence islamique pour la première fois qui se tient à Lahore. Et on lève les fonds qui vont permettre de faire ce que Bhutto appelle la bombe islamique. L'argent des Saoudiens étant un investissement, une assurance vie. Alors, avec un retour sur investissement immédiat, parce que l'armée pakistanaise, c'est la plus grande armée du Moyen-Orient, et pas seulement parce qu'elle a la bombe, mais aussi parce qu'elle a les hommes et les matériels. Et à partir des 70-80, il y aura des dizaines de milliers d'officiers pakistanais à faire la police, et plus que la police, hein, à protéger les monarchies dans tout le Golfe, y compris l'Arabie Saoudite.
Et en Arabie Saoudite aussi, pour protéger les lieux saints.
Et quand effectivement il y aura la guerre de 1990, par exemple, hein, la guerre du Golfe en 90, les Pakistanais enverront des troupes pour protéger les lieux saints. Alors là, on renoue avec ce passé, en quelque sorte, avec cet accord qui ferme une parenthèse, parce que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan se sont dégradées en 2015 lorsque le Pakistan a refusé d'être dans la coalition qui allait se battre au Yémen contre les Houthis.
Une guerre perdue par Mohamed Ben Salman, tout jeune prince, pas encore héritier d'ailleurs à l'époque,
oui,
si ma mémoire est bonne,
fait.
Et qui voulait affirmer son autorité et qui, il faut bien le dire, perd cette guerre.
Voilà, et le Pakistan, anticipant sans doute cette défaite, préfère rester en retrait. Ça nuit considérablement aux relations entre les deux pays. L'Arabie Saoudite se rapproche de l'Inde à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs des investissements dans les pétroles qui sont faits en Inde. Bon,
Sait-on, que sait-on du contenu réel de cet accord? Parce que le Pakistan est nucléaire et on sait que l'Arabie Saoudite a des ambitions nucléaires en affirmant évidemment qu'elle serait civile. Mais voilà, il y a quand même cette idée que le Pakistan offrirait à l'Arabie Saoudite une protection nucléaire.
C'est ça. Ce que l'on sait, et c'est encore assez peu de choses, c'est que toute agression contre l'un des deux pays serait perçue par l'autre comme une agression contre lui-même. Une agression contre le Pakistan venant d'Inde, par exemple, serait perçu par les Saoudiens comme une agression contre eux. Et la même chose, et c'est plus important encore, si l'Arabie Saoudite, et c'est là où la frappe sur le Qatar, évidemment, a été le déclencheur, est victime d'une attaque, israélienne ou autre, alors le Pakistan vient au secours des Saoudiens. Alors, est-ce que venir au secours des Saoudiens pourrait aussi passer par l'arme nucléaire? Ça, on n'en a aucune certitude. Ce que le ministre de la Défense pakistanais a dit, c'est que tout ce dont nous disposons est maintenant au service des Saoudiens. Bon. Ce qui impliquerait aussi, effectivement, du coup, l'arme nucléaire, sachant que le Pakistan a 200 têtes nucléaires déjà dans ses stocks, et que éventuellement il pourrait y en avoir sur le territoire saoudien.
Donc transférer des actifs, comme diraient les militaires.
Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça se déroule à un moment où les relations entre le Pakistan et les États-Unis sont au beau fixe. Et l'année 2025, c'est vraiment l'année du Pakistan. Le Pakistan revient dans le jeu, y compris à Washington, parce que, vous vous en souvenez sans doute, lorsque la guerre de 4 jours entre l'Inde et le Pakistan se traduit par un cessez-le-feu, se termine par un cessez-le-feu négocié soi-disant par Donald Trump.
Oui, Donald Trump qui dit ça fait partie des 7 guerres
que j'ai réglées,
donc je mérite le prix Nobel de la paix.
Et là, ça ouvre une lune de miel entre le Pakistan et les États-Unis, parce que le chef d'état-major Munir, effectivement, approuve, tandis que le Premier ministre Modi dit « mais non, on reste dans du bilatéral ». Et dans la foulée de cette opération, vous avez les Pakistanais qui offrent aux Américains un accès à leurs terres rares, dont les Américains sont très friands. Et par ailleurs, une négociation où la famille Trump est très présente sur les crypto-monnaies. Hein, les deux fils Trump sont très impliqués dans une opération.
Et le fils Witkoff aussi.
Voilà.
Ce qui est très intéressant, parce que chaque fois que Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Donald Trump, non seulement auprès de Vladimir Poutine, mais auprès de Benjamin Netanyahu, et en fait tout conflit qui se présente, il y a le fils Witkoff qui trottine derrière, comme les fils Trump, surtout le Eric, là, le deuxième, pour faire des deals. Enfin,
ça, faut pas le sous-estimer, parce que le privé et le public sont un mélange des genres qu'affectionne la Maison-Blanche ces temps-ci, et c'est un facteur additionnel. Mais au-delà, il y a quand même aussi une chose très importante par laquelle je termine. Ces escarmouches avec l'Inde, elles ont montré au monde entier que l'armée pakistanaise avait une maîtrise de technologies sophistiquées, permettant d'abattre un Rafale et peut-être davantage. Et là, les États-Unis ont redécouvert un Pakistan dont ils espèrent faire une sorte de gendarme régional. Et vis-à-vis de l'Afghanistan, peut-être vis-à-vis de l'Iran. Le Pakistan, d'ailleurs, est ravi de voir le programme nucléaire iranien retardé, parce qu'avoir un Iran nucléaire à ses portes, c'est pas du tout dans son intérêt. Et donc, la valeur, en quelque sorte, du Pakistan sur la scène géopolitique qui va, finalement, de l'Asie du Sud au Moyen-Orient, se trouve réévaluée presque mécaniquement. Et les Chinois, il faut finir par là quand même, sont ceux qui arment maintenant le Pakistan d'une manière particulièrement, je dirais, avancée en plan technologique. Hein. 80% des armes du Pakistan sont made in China, et c'est elles qui ont fait le plus de dégâts dans l'armée indienne en mai dernier. Tout ça nous amène à redécouvrir un acteur que très souvent on ignore, mais qui va certainement jouer un rôle important. Et de fait, c'est sans doute ces frappes sur Qatar qui auront été une erreur stratégique d'Israël. Parce qu'Israël, du coup, se retrouve évidemment avec un allié indien, mais avec un ennemi pakistanais qui est depuis toujours s'est opposé à lui. Avec, dernier point, la Turquie, qui a elle aussi apprécier ô combien l'efficacité de l'armée pakistanaise en mai dernier, au point d'envoyer ses pilotes se former au Pakistan maintenant.
Dorothée Schmidt, le rôle de la Turquie, puissance militaire importante, membre de l'OTAN, et néanmoins un président Erdogan, flatté lui aussi par Donald Trump il n'y a pas si longtemps à la Maison-Blanche, même si Donald Trump, encore une fois, a eu cette formule à peu près, enfin quand même très très ambigu, en disant « Ah ben Erdogan, lui, il s'y connaît en tripatouillage électoraux ». Donc on a vu Erdogan s'interroger si la traduction était exacte ou pas. Mais Dorothée, plus sérieusement, quelle est la partie que veut jouer Erdogan, qui affirme évidemment de plus en plus le rôle moyen-oriental de la Turquie?
Bon, je crois que la Turquie cherche sa place, en fait, dans ce jeu du Moyen-Orient dont on a tous dit qu'il était effectivement très volatile, mais on a des nouvelles puissances. Et je trouve que de ce point de vue-là, ce qu'on vient d'entendre sur le Pakistan est très important, parce que la relation turco-pakistanaise, elle est excellente, effectivement. C'est une des extensions de la diplomatie, là, pour le coup, vraiment islamiste d'Erdogan. La Turquie n'a pas toujours une diplomatie, une obsession sunnite dans sa diplomatie, comme on le dit. C'est un pays qui a une volonté d'autonomie de puissance, qui surinvestit toutes les instances multilatérales auxquelles elle peut avoir accès, qui veut montrer qu'elle fait partie du jeu, qu'elle est là. Et je crois que les Turcs ont très bien compris, depuis les contre-révolutions qui ont suivi les printemps arabes de 2011, que sortir du bois trop fort en soutien de la galaxie des frères musulmans ne leur rapportait rien de bon. Le dernier pays où ils avaient fait un énorme investissement, à la fois politique mais aussi maintenant économique, hein, pour l'avenir, c'est la Syrie. Et aujourd'hui, si on les laissait simplement s'occuper d'apporter une forme de soutien au gouvernement d'Ahmed Shara en Syrie, ça leur suffirait très bien, parce que ça leur permet aussi de s'entendre avec les pays du Golfe, qui sont également en soutien de ce nouveau gouvernement syrien, et particulièrement l'Arabie Saoudite, avec laquelle
la Syrie qui organise demain dimanche des élections législatives.
Oui, des élections au suffrage indirect, organisées de manière assez amateur, mais qui néanmoins sont là pour montrer que la Syrie veut se légaliser d'une certaine façon dans les normes internationales qu'on lui demande de respecter. Donc bon, à suivre, ce qui est très, très intéressant à suivre, mais les Turcs sont très engagés aussi pour la reconstruction de la Syrie. Pour eux, il y a un gros enjeu économique là-dedans. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une relation qui soit quasiment, enfin, qu'il soit de dissuasion mutuelle, mais en tout cas une distance suffisante vis-à-vis d'Israël pour que ça ne mette pas en péril tous leurs projets. Les Turcs ont une rhétorique qui est très forte contre Netanyahou, très forte pro-palestinienne, sur Gaza. Erdogan joue beaucoup sur la fibre du massacre, du génocide. C'est quelque chose qui est très présent dans le débat public turc. Les Turcs sont très unanimes sur ça. Mais Erdogan a évidemment très très peur de se retrouver engagé dans une confrontation avec Israël. Or, il se trouve que les Israéliens, depuis le début de l'année, disent clairement que la Turquie peut être le prochain ennemi et qu'il va falloir songer à monter en gamme et à réorienter la stratégie israélienne pour éventuellement se préparer à une confrontation avec la Turquie. Et on a des escarmouches déjà. On a eu déjà cette question en Syrie sur les frappes israéliennes en protection des Druzes. On a eu des frappes israéliennes sur des endroits où les Turcs souhaitaient installer une base militaire. Et moi qui suis à Chypre aujourd'hui, on a une nouvelle inquiétude qui est que la République grecque de Chypre a décidé de s'équiper de batteries anti-aériennes israéliennes et que les Turcs ont immédiatement manifesté leur très fort mécontentement et qu'on s'apprête à avoir une espèce de réchauffement de ce conflit à Chypre, ce qui fait quand même un effet collatéral assez inouï, en fait, hein, de la confrontation entre Israël et ses voisins aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut voir un conflit gelé qui se réchauffe parce que la Turquie est très présente et l'armée turque est très présente à Chypre Nord et que la République grecque de Chypre est en train de s'aligner sur Israël plus fortement en moment de conflit militaire et de tensions militaires extrêmement élevées dans son voisinage immédiat. Donc voilà, les Turcs, ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes au Moyen-Orient. Ils voudraient se concentrer sur la reconstruction du Moyen-Orient. Ils ont compris qu'il fallait, je crois, passer la main politiquement aux pays du Golfe.
David Kalfa, pour Israël, donc la Turquie devient là aussi un acteur menaçant, sinon menaçant, en tout cas concurrent en Syrie, avec une extension au-delà du Golan de l'emprise israélienne en Syrie même. Dorothée parlait de la question druze. Il y a une communauté druze, on le sait, importante en Israël même. Et Israël dit protéger les druzes de Syrie. Donc, on est encore une fois dans cette idée que vous nous expliquiez d'entrer dans cette discussion, c'est que c'est en fait Jérusalem qui est acculée et entouré, en fait, d'ennemis qui n'ont pas tous réglé leur solde, si j'ose dire, avec Jérusalem.
Alors, pour le coup, là, sur le dossier turco-israélien, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en réalité...
Encore plus compliqué.
Oui, parce qu'il y a un bras de fer, en fait, entre la Turquie et Israël. Parce qu'au fond... il y a une volonté de se répartir des zones d'influence en Syrie, très clairement pour la Turquie, le nord de la Syrie, pour Israël, le sud, avec la question des Druzes que vous avez mentionné à juste titre. Et en fait, celui qui pourrait jouer le rôle de médiateur dans ce bras de fer, c'est évidemment à nouveau Trump. C'est à nouveau Trump parce que Trump a d'excellentes relations avec Erdogan, il s'en vante. Lequel a des sorties sur Israël qui sont, scabreuses. D'ailleurs, je note au passage que la Turquie, qui avait signé la déclaration de New York, notamment sur la question du désarmement du Hamas, quelques jours plus tard, on a demandé à Erdogan ce qu'il pensait du Hamas, et il a publiquement dit que c'était un mouvement de résistance. Donc on est quand même loin d'être sur une unanimité, y compris parmi les pays signataires de cette déclaration. Il y a des négociations qui se sont intensifiées entre Israël et la Syrie. On parle d'un potentiel accord de sécurité. Et évidemment, cet accord de sécurité, d'une manière ou d'une autre, prendra en compte les intérêts stratégiques turcs. C'est une évidence. Donc on va plutôt assister, à mon avis, à une répartition des zones d'influence entre la Turquie et Israël. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt ni des Turcs ni d'Israël d'ouvrir un nouveau front, sachant que celui de Gaza en réalité est gelé, que comme on l'a dit, l'Iran n'a pas renoncé à la bombe atomique, qu'en réalité le Hezbollah à ce stade refuse d'être désarmé. L'armée libanaise a déjà du mal à désarmer, à démanteler les infrastructures militaires des groupes armés palestiniens dans les camps de réfugiés au Liban. Il y a eu un processus qui a été entamé, mais il est symbolique à ce stade. Donc on est plutôt dans un conflit gelé, dans des négociations qui ont pour vocation de se répartir des zones d'influence. Et beaucoup moins, je crois, dans un conflit ouvert auquel ni, encore une fois, les Turcs ni les Israéliens n'ont intérêt aujourd'hui.
Azadeh Kian, vu de Téhéran, alors de quel Téhéran parle-t-on? Est-ce qu'on parle du guide qu'on n'a plus vu depuis, rarement. Enfin très rarement, mais enfin, mais qui semble relativement désavoué. Enfin, c'est très difficile, mais vous y connaissez infiniment mieux que moi. Mais c'est très difficile de lire, en fait, au sein même du régime, ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que Israël reste une menace pour l'Iran? Autrement dit, est-ce que à Téhéran, on évoque encore la possibilité d'une nouvelle attaque israélienne?
Tous les jours, à la fois de la part des responsables iraniens, mais aussi dans la presse, mais aussi dans la population. Quand je parle avec des Iraniens, des amis, les membres de ma famille, etc., aussi, c'est évident, tout le monde attend l'attaque, une nouvelle attaque de la part d'Israël, surtout maintenant que l'Israël et le Hamas sont en train peut-être de régler certaines choses à Gaza. Les Iraniens pensent que la nouvelle cible sera l'Iran, la cible à nouveau des attaques israéliennes, d'autant que il n'y a effectivement aucun accord possible, envisageable pour l'instant entre l'Iran et les États-Unis. Donc l'Iran n'est pas du tout protégé, ni par les États-Unis, ni par les voisins. Par exemple, les Iraniens pensaient et disaient que les pays voisins ne vont pas se soumettre à ces sanctions, ces nouvelles séries de sanctions internationales et européennes. Or, on voit bien que ça n'est pas le cas et que, par exemple, la Turquie, mais Dorothée me dira, visiblement, la Turquie aurait dit qu'ils vont appliquer les sanctions en temps et en heure. Donc, si vous voulez, il y a ces inquiétudes. Mais en même temps, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, le guide a été totalement absent et il a perdu, me semble-t-il, son emprise totale sur la politique interne et étrangère, de sorte qu'il est souvent désavoué à la fois par les ultras, mais aussi par la partie plus modérée du pouvoir. Par exemple, lorsqu'il dit « on ne veut pas discuter avec les Américains, je ne fais pas confiance ni aux Européens, ni aux Américains, etc. », on voit que derrière, l'équipe gouvernementale, y compris à l'ONU par exemple, a discuté à la fois avec la Troïka, mais aussi à tenter de discuter avec les Américains par l'intermédiaire, bien sûr, de la Troïka. Donc, en fait, il y a énormément...
La Troïka, il faut le rappeler, ce sont les Européens.
Les trois, voilà, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Aussi, par exemple, il y a un certain nombre, par exemple, la Convention de Palerme contre le financement du terrorisme n'a pas été signée par l'Iran, alors que cela fait des années et des années qu'on en parle. Et ça y est, maintenant, ils l'ont signée. Alors, quelles seront les conséquences, on le verra, mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, l'Iran s'engage devant les puissances occidentales à ne plus financer le Hamas, les djihadistes islamiques ou à d'autres, ou par exemple le Hezbollah? Je m'en doute, mais d'un autre côté, Larry Gianni, qui est le chef de conseil suprême de la sûreté, était récemment au Liban. Il a annoncé qu'ils vont aider à la reconstruction des parties dévastées par les États israéliennes au Liban. Mais ça s'arrête là. Il n'a pas dit on va vous armer, etc. Donc, en fait, on voit un changement de discours, hein, une certaine modération que je détecte à la fois dans les discours des dirigeants, mais aussi en général. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, ils ne s'attendent pas à être attaqués une nouvelle fois par Israël. Et là, ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils ont renouvelé leur arsenal militaire, etc. Donc, voilà, enfin, on en est là. C'est une situation pour la population très difficile, hein. Il faut vraiment aussi parler, peut-être, de la population iranienne dans une situation extrêmement difficile, à la fois économique, à la fois bien sûr politique, et en même temps on voit que cette société civile malgré tout a obtenu quand même des gains, notamment en ce qui concerne les femmes.
des gains, mais une situation économique en particulier désastreuse. Absolument désastreuse. Donc,
absolument.
Avec une monnaie, le rial, qui s'est dévaluée. Enfin, c'est à peine calculable par rapport au dollar.
Absolument.
Et donc là, Christophe Jaffrelot, on en revient à l'ombre portée que vous évoquiez de Pékin et de Moscou. Moscou qui continue de recevoir des drones iraniens pour sa guerre en Ukraine. Et donc, voilà, il y a cette espèce de gigantesque puzzle.
On peut effectivement essayer de resituer le Moyen-Orient dans un contexte encore plus large et faire appel à ces grands acteurs, notamment la Chine, qui, rappelez-vous, avait essayé de réconcilier Iran et Arabie Saoudite pour être elle aussi médiatrice. Il y a un autre acteur à vocation globale que je pense qu'il faut aussi mentionner, c'est l'Inde. Parce que l'Inde avait, elle aussi, misé sur un rapprochement, alors qui allait au-delà des accords d'Abraham, pour elle, était véritablement le sésame ouvre-toi qui faisait qu'elle pouvait travailler avec les Saoudiens, travailler avec les Israéliens. Et Dieu sait si elle a investi. Dieu sait si les grands hommes d'affaires proches de Narendra Modi ont investi dans cette région. Le port de Haïfa, par exemple, est maintenant aux mains de Gautam Adani, qui est l'oligarque en chef proche de Narendra Modi.
Et Modi, qui est le grand perdant.
Et alors voilà, c'était le mot que j'allais utiliser, parce que, rappelez-vous, le G20 en 2023 à New Delhi est l'occasion pour Narendra Modi de dire « et nous allons faire un corridor ». Qui partira de l'Inde et qui arrivera en Europe. Et d'ailleurs, à Marseille, il y a quelques mois, notre ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui démissionnaire, était avec son homologue indien pour dire « ce sera là l'arrivée du corridor qui partira de Bombay, de Mumbai, éventuellement ». Mais ça implique quoi? Ça implique que les Saoudiens, les Émiratis et les Israéliens soient de la partie, ce qui n'est plus d'actualité.
Non, et Modi est frappé maintenant à hauteur de 50% par des droits de douane exorbitant.
Quand le Pakistan n'en a que 19%.
Et pourquoi? Parce que Modi a dit, mais non, ce n'est pas Donald Trump qui a mis un terme à la guerre de 4 jours.
Ça, c'est les 25% supplémentaires. Il était déjà parti sur 25% et il lui a remis 25% parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas.
Mais donc, c'est encore une fois le caractère extrêmement personnalisé de la diplomatie américaine.
Oui, alors, mais comme toujours, il faut aussi resituer cette relation idiosyncrasique dans un cadre plus large. Les Indiens ont été très protectionnistes, ne veulent pas se dissocier de la Russie, dont ils continuent à acheter le pétrole. C'est le premier acheteur du pétrole russe, l'Inde. Et il le raffine pour nous, hein, les Européens.
Et d'ailleurs, Donald Trump demande aux Européens de taxer l'Inde pour empêcher l'Inde d'acheter. Bon, mais écoutez, le Moyen-Orient est déjà suffisamment compliqué pour ce samedi matin à 11h47 et 25 secondes. Cher Christophe, sur ce prisme élargi que vous évoquez, donc Moscou, l'Inde, Pékin, et revenons au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'on voit quand même ces zones d'influence qui sont sans arrêt en fluctuation.
Mouvante. Tout à fait. Je pense que on va voir si ça se confirme, mais l'axe qui est en train de renaître, entre guillemets, hein, parce qu'il était là, mais il y a très longtemps, qui va des pays arabes jusqu'au Pakistan, ce sera quand même quelque chose de nouveau. La Syrie est aussi un des pays où le Pakistan est en train de réinvestir considérablement, toujours au plan militaire. C'est-à-dire que le Pakistan a cette capacité à exister d'abord au plan stratégique et militaire. On le voit d'ailleurs avec le Bangladesh, il est en train de renouer une relation militaire avec le Bangladesh. Donc ça, ce sera une des conséquences du conflit actuel à suivre. En parallèle, Israël-Inde devient un axe, là aussi. Alors, stratégique, oui, En termes militaires, Dieu sait si à nouveau les Indiens vendent des armes aux, aux Israéliens et vice-versa. Mais aussi, on peut dire en termes civilisationnels, parce que on est obligé, tout à l'heure on évoquait la dimension islamique de la Turquie dans sa relation au Pakistan, là on est obligé d'invoquer la relation anti-islamique de cet accord entre Modi et Netanyahou. Rappelons-nous, Modi fait la visite historique en 2017 quand il se rend en Israël. C'est la première fois qu'un premier ministre indien se rend en Israël. Et depuis, à aucun moment à l'ONU, il n'a voté contre Israël. Y compris lorsqu'il s'est agi de demander un cessez-le-feu. Et il y a quelques semaines seulement, dans des conditions humanitaires que l'on connaît. Donc vous avez une solidarité qui ne peut s'expliquer entièrement que par cette espèce de coalition contre le monde islamique tel qu'il est vécu, perçu par ces deux pays.
David Kalfa, l'agence France-Presse annonce à l'instant de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Est-ce que cela veut dire que Benjamin Netanyahou défie maintenant ouvertement son grand allié américain ? Évidemment, le décalage horaire peut jouer en sa faveur.
Pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, toute l'ambiguïté en fait, de ce plan Trump, c'est que comme il est lacunaire, Netanyahou peut tout à fait dire mais il s'agit d'une posture défensive, mes troupes ont été menacées, donc elle riposte. En revanche, j'ai mis un coup d'arrêt aux opérations offensives, parce qu'en l'occurrence, pour le coup, l'état-major ce matin a annoncé que sa progression dans la ville de Gaza, donc dans Gazaville, était stoppée, donc était gelée à ce stade. Donc c'est toute la faiblesse de ce plan qu'il vend comme une espèce de sortie de crise magique. Enfin, c'est la potion magique qu'il aimerait bien administrer à chacun des belligérants. Sauf que ces mêmes belligérants vont encore une fois l'interpréter en fonction de leurs intérêts à court, moyen, long terme. Si vous me permettez, juste un tout petit mot sur le Pakistan-Israël, parce que il y a en réalité une relation ambiguë. Souvenez-vous quand je crois que c'est en 2022, il y a un certain nombre d'intellectuels, de membres de la société civile pakistanaise qui avaient fait un déplacement en Israël, un peu dans le sillage de la signature des accords d'Abraham. Et souvenez-vous aussi qu'au moment de la signature des accords d'Abraham, les Américains avaient fait pression sur le Pakistan pour que ce dernier rejoigne ces accords, ce qu'il n'a évidemment pas fait parce qu'il conditionne une normalisation de ses relations avec Israël à la création d'un État palestinien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des relations entre Israël et le Pakistan. Ce sont des relations évidemment discrètes, secrètes. Principalement, ça passe principalement par les services de renseignement civils et militaires. Et par ailleurs, sur l'Inde. Alors oui, c'est une défaite pour Modi, mais j'ai envie d'ajouter pour l'instant. Encore une fois, tout ça est très mouvant. Trump, il a 4 ans devant lui. Son obsession.
Enfin, un peu moins là maintenant.
Un peu moins maintenant, mais enfin moi je parle de l'ensemble de son mandat. Et en fait, son obsession, rappelez-vous sa campagne électorale, il avait annoncé qu'il voulait mettre un terme à la guerre à Gaza. En janvier 2025, il impose un cessez-le-feu à Netanyahou. Son obsession, c'est le prix Nobel de la paix. Il pense qu'il en mérite
plusieurs. Et le prix Nobel de la paix, j'ai vérifié la date, elle est très proche.
Et voilà.
C'est le 10 octobre.
Oui, bon alors ça va être à mon avis raté pour ce coup-ci. Mais en tout cas, ce qu'il a en tête...
À mon avis, Donald Trump et son entourage y croient dur comme fer.
Bien sûr, mais bon, enfin, il n'est pas connu pour sa modestie, disons, proverbiale. Non, mais en fait, pour être de manière plus sérieuse, il faut avoir à l'esprit que pourquoi Trump veut absolument un cessez-le-feu à Gaza ? Parce qu'il est persuadé qu'une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël ne sera pas possible sans cette première étape. Ça, c'est la première étape de ce processus. Et par ailleurs, je note aussi au passage que Jared Kushner, qui revient très clairement dans le jeu, alors en réalité, il est en soutien, le gendre de Donald Trump, qui est en soutien à Witkoff, qui le qualifiait de rabbin, c'est-à-dire son guide spirituel en quelque sorte. Mais là, maintenant, il a un rôle direct dans les négociations entre Israël et le Hamas, et évidemment...
Le Jared qui, le jour de l'annonce du plan pour Gaza, signait avec l'Arabie Saoudite le rachat à hauteur de 55 milliards de dollars d'une énorme entreprise de jeux vidéo. Donc on voit là encore...
Oui, l'entremêlement des affaires, du business et de la politique étrangère et de défense américaine, ce qui est absolument stupéfiant, en effet. Et il est clair que Jared Kushner sera la cheville ouvrière d'une éventuelle normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et si vous regardez le plan, le fameux plan Trump, ces 20 points, vous avez un point qui mentionne, mais c'est un verbatim de la rhétorique saoudienne qui parle d'une voie crédible vers la création d'un État palestinien. Et comparer en fait ce verbatim à celui des communiqués officiels de la diplomatie saoudienne, et vous verrez que ce sont les mêmes termes qui sont employés.
Sauf que les Saoudiens ajoutent Jérusalem-Est comme capitale de État palestinien. Juste un dernier mot, David, parce que je crois qu'il faut penser aux familles de ces otages israéliens. Donc on sait qu'il en reste quoi ? Il en reste 20 qui
sont vivants. Oui, vivants probablement, peut-être même moins.
On se demande dans quel état. Et on imagine l'angoisse, l'émotion de ces gens ce matin.
Oui, alors ce qu'il faut noter, si vous voulez, c'est que moi j'ai le sentiment que pour Netanyahou, ça n'a jamais été la priorité. En réalité, depuis le départ, Israël est tombé dans le piège du Hamas parce que Israël ne pouvait pas mener de front deux objectifs qui étaient contradictoires, de manière objective, je veux dire, destruction politico-militaire du Hamas d'un côté, libération des otages de l'autre. Netanyahou a priorisé le premier objectif aux dépens du second, et donc bien sûr que pour les familles, si ces otages sont libérés, ça sera un énorme soulagement, et au-delà en réalité pour la population israélienne, parce que ce qu'on a du mal à comprendre en Occident, c'est qu'au fond, pour Israël, le 7 octobre, c'est encore aujourd'hui. C'est un jour sans fin. Si vous voulez, cette tragédie, elle se poursuit, ses conséquences se font encore sentir, parce que non seulement ça a ouvert un abîme pour les Israéliens, ça a brisé ce mythe du sanctuaire d'Israël pour le peuple juif, mais aussi parce que c'est une société qui repose sur une solidarité très forte entre donc son armée, l'appareil d'État et ses citoyens. Et donc laisser entre les mains de geôliers cruels que sont les geôliers du Hamas pendant plus de 2 ans dans des conditions épouvantables un certain nombre d'otages, y compris femmes et enfants, évidemment que ça fracture la cité israélienne, ça prolonge le traumatisme, et je pense que la cité israélienne ne pourra pas panser ses plaies sans cesser le feu et sans libération de ces mêmes otages.
Et donc on va évidemment continuer de suivre tout au long de la journée l'évolution de la situation à Gaza, et aussi, évidemment, les préparatifs côté israélien pour l'accueil de ces otages. Et évidemment, on ne peut pas ignorer non plus la flambée d'antisémitisme dans nos pays, avec cet attentat à Manchester, en Angleterre, aux abords d'une synagogue, et bien évidemment, les précautions accrues prises en France par le ministère de l'Intérieur. Merci à vous quatre. Merci à vous, David Kalfa. Je rappelle votre ouvrage Israël-Palestine, année zéro, paru aux éditions Le Bord de l'Eau en 2024. Et où en est votre entreprise, donc, de monter ce nouvel endroit de dialogue israélo-palestinien?
Alors en fait, c'est un think tank, non seulement israélo-palestinien, mais israélo-arabe. On va faire ce qu'on appelle du track 2 et du track 1.5, c'est-à-dire en fait de la diplomatie parallèle.
Sur France Culture.
De la diplomatie parallèle, on va inviter à la fois des experts, des intellectuels, israéliens, palestiniens et plus largement arabes, et des officiels, donc des diplomates, voilà.
Je remercie aussi, bien sûr, Dorothée Schmitt, qui est à Chypre ce matin. Merci, Dorothée, d'avoir été avec nous. Et je rappelle votre contribution au Ramsès 2025, le rapport annuel de l'IFRI, qui vient de paraître aux éditions d'Uno. Azadeh Kian, vous avez publié un livre en anglais qui vient d'être réédité sur le genre, l'ethnicité et la religion en Iran. On attend quand même qu'il soit publié en français. Et Christophe Jaffrelot, il est temps de mettre à jour votre ouvrage, Le syndrome pakistanais, aux éditions Fayard. Il remonte à 2013. C'est pas sérieux, Christophe.
L'édition anglaise, elle, est à jour.
Merci en tout cas à vous quatre, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. Paul Guigue était à la technique. Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission en même temps que la documentation de Radio France et Patricia Miura, bien sûr. Dans un instant, les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Bon week-end et à samedi prochain.